faire ou comment faire des disciples parmi la jeune génération. On est content que vous soyez là, on est surtout content d'être avec vous. On va commencer par quelques mots de présentation. Et puis après, on va essayer de vous raconter des histoires de nos vies, comment le Seigneur a fait grâce avec nous, comment il a été bon, pourquoi est-ce qu'on est arrivé tout à coup devant vous pour parler de ce poids-là, pourquoi on a la jeune génération à cœur, pourquoi on aime parler des disciples et tout ça, pourquoi on est les deux et qui on est, tout ça. On va vous raconter un peu des histoires, des petits bouts de témoignages. On aimerait aussi essayer de vous donner des pistes concrètes avec des idées qui sont bien sûr pas limitées parce qu'elles vont être personnalisées pour chacun des endroits où vous servez et où vous vivez. Mais on aimerait être le plus concret possible pour peut-être vous aider à faire un tout petit pas ou un grand pas, on ne sait pas, dans la direction de faire des disciples parmi la jeune génération. Ça va comme ça pour vous? Vous êtes à l'aise? Vous avez une bonne place? Super. Et puis, on aimerait aussi finir par un temps de questions. Si vous aimeriez réagir ou bien si vous aimeriez poser des questions, vous poursuivre. Donc voilà, on a un bon moment ensemble. Et puis donc, pour commencer directement avec les histoires, les témoignages, je donne la parole à Ivan. Et puis, on va se compléter, s'entrecouper comme ça. On est à l'aise, on est content que vous soyez là.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ivan Lichy, j'ai 42 ans. Je suis marié à Nadia, j'ai deux filles merveilleuses qui s'appellent Ella et Sophia. Je ne suis pas pasteur, je suis un ancien, si vous voulez, et puis président du conseil depuis plusieurs années. Mandat que je vais finir en mars prochain, pour des raisons bien précises que vous allez entendre ce soir. Je travaille pour une très grande marque horlogère dans la logistique, où je suis responsable de la logistique, la vente interne et différents aspects comme ça. J'ai la chance de côtoyer des gens qui ont un QI très élevé. Et je me sens très petit à côté. Et pourtant, même là, Dieu m'utilise d'une manière étonnante. Et j'ai la chance, je me suis converti deux fois. En 1989, j'ai eu la chance de rencontrer le Seigneur Jésus. Et un peu avant, je me suis converti, je suis devenu roman. En fait, je suis un Italien, donc je suis Italien, mais j'ai grandi... Enfin, je suis un Suisse-Allemand-Italien, voilà. C'est-à-dire que, à travers aussi mon épouse, etc., moi j'ai fait toutes mes écoles en allemand, donc si jamais vous ne me comprenez pas très bien ou je ne m'explique pas très bien, n'hésitez pas à poser des questions. Ça va jusque-là? Voilà. J'aimerais vous raconter une rencontre que j'ai vécue. J'ai vécu une rencontre assez exceptionnelle et c'était hautement spirituel. Je suis allé à un concert de musique, donc c'est très spirituel. Et comme à mon habitude, en tant que bon italien, j'avais du retard. Alors j'étais en train de... Je suis allé à Berne, le concert était à Berne. Et c'était rigolo parce que je ne trouvais pas de place de parc, bien sûr, et je tournais comme un fou. Pour finir, vu que je suis un bon Italien, j'ai parqué à la Sauvage, et je suis arrivé avec, je crois, 20 minutes de retard. La salle était comble, c'était une salle assez petite, et c'était plein. On n'arrivait même plus à entrer, donc on descendait les escaliers, il y avait un petit carré, et il y avait une porte qui était ouverte, bien sûr, et puis moi j'étais là derrière, et puis... Je regardais comme ça, quoi. Et voilà, quoi, la musique était super. Je connaissais le chanteur que j'apprécie beaucoup. Et voilà que quelqu'un arrive 10 minutes après moi. Il était encore plus en retard que moi. Et il vient, il me fait « Ah, c'est plein, oh, c'est dommage !» Il commence comme moi à regarder comme ça. Et de fil en aiguille, on commence un petit peu à discuter. Il me donne la main. « Hey, salut !» Et tout d'un coup, je me rends compte, mais c'est Martin. C'est Martin Bullmann, c'est le grand prédicateur, vous savez, enfin, je ne sais pas vous, mais moi quand je vois des gens comme lui, je suis très impressionné. Et tout d'un coup, on commence à partager de tout et de rien, donc c'était très spirituel, encore une fois de plus, on discutait si Messi était plus fort que Maradona, ou que si les étrangers du HCBN étaient meilleurs que les étrangers du CP Berne, donc c'était très spirituel à chaque fois. Et voilà qu'il me propose, mais viens, écoute, regarde, ça c'est mon numéro Natel, mon email, téléphone-moi, on se voit, on se fait une bouffe, on écoute de la musique. J'étais un peu choqué parce que, franchement, j'avais pas l'habitude que quelqu'un, on va dire, de cette renommée, soit aussi franc, spontané, totalement normal comme moi. Alors ben, j'étais un peu gêné, mais une fois j'ai écrit un petit email comme ça, et voilà qu'on se voit. Chaque fois avec lui, c'est des rencontres très spirituelles, comme je disais, je souligne, avec une bonne bouteille de vin, du fromage. C'était vraiment super. Et à fur et à mesure, comme ça, il s'est développé vraiment une amitié. Et ça a fait qu'avec notre église, donc l'église de Réveil de Bienne, nous avons demandé s'il pouvait nous coacher pendant plusieurs années, chose qu'il a fait pendant 6 ans. Et pendant 6 ans, on a eu la chance de le côtoyer d'un côté, en tant qu'église. Et de l'autre côté, moi j'avais la chance de développer une vraie amitié avec lui. Des rencontres, c'était pas extrêmement fréquent, mais de qualité. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris bien plus tard qu'est-ce qui s'était passé. En fait, pendant ces rencontres, il me parlait de lui, mais il me disait tout ce qui n'allait pas. Il disait toutes les catastrophes qu'il vivait, et il en vit, hein. Et partout où il s'est trempé, partout où il s'est cassé la gueule. Et on a commencé à prier l'un pour l'autre. Et il m'a mis vraiment en confiance. Le grand Martin Bulman, cette image-là, elle est tombée. Et c'est devenu vraiment un ami proche, et on priait les uns pour les autres. Et ces rencontres, c'était... Souvent, c'était très cœur à cœur, c'était pas toujours spirituel. Donc je l'ai souligné, à chaque fois, c'était chez lui à la maison, c'était la bouteille de vin, et on parle un peu de tout et de rien, et tout d'un coup, il posait des questions très pertinentes. Mais t'as remarqué que t'as un peu peur, ou qu'est-ce qui te retient en fait? Mais pour la prochaine fois qu'on se voit, mais écoute, réfléchis une fois, mais c'est quoi les peurs qui te retiennent? Puis moi, je pensais peur d'un tremblement de terre, peur du terrorisme ou des choses un peu du gros, quoi. Puis lui disait, non, je parle pas de ça. Ah, il me disait, non, mais peur de l'échec, peur de pas être à l'auteur, peur de pas plaire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Je sais pas si... Vous, certainement pas, hein, j'en suis sûr. Mais en tout cas, moi, j'avais ces peurs-là. Et gentiment, à travers cette amitié très profonde qui s'est créée, après un certain temps, il commençait en fait, c'était plus... C'est comme si le temps que je pouvais passer avec lui, parce qu'en fait, ce qu'on a entendu avant, c'est exactement ça. Je voyais comme il vivait avec ses filles, avec ses enfants, avec sa maman qui habite toujours dans la même maison, comme il était avec son épouse... comme il faisait la vaisselle lui-même, des choses mais bêtes. Et pourtant, c'était extrêmement fort pour moi. Et à un moment donné, est venu le temps où, moi j'aime ces rencontres-là, et vraiment j'aimais ces rencontres-là, et ça devenait de moins en moins. Et je remarquais que, il y avait plus autant de voilà, quoi, on se voyait de moins en moins, c'était très court et comme ça. Par contre, il a commencé à poser ma main, mets-toi debout, il venait comme ça, il posait simplement sa main sur moi comme ça, il disait, tu sais, moi je te fais confiance. Merci. C'est tout. En allemand, il y a quelque chose de très fort, j'essaierai de le traduire, ich steh zu dir. Et comment tu traduirais ça, toi?
Non, je me mets à tes côtés. Je t'affirme.
Je me tiens à tes côtés.
Je suis pour toi, je suis avec toi. Et puis, ben, moi, dans ce temps-là, moi, petit, rien du tout, lui me dit ça, mais je ne comprenais pas. Mais ça déclenchait quelque chose que je ne connaissais pas. Ça déclenchait en moi un processus que je n'avais jamais connu. C'est-à-dire, j'ai commencé à comprendre que je peux être moi-même. Et l'exemple que j'avais de lui, de comme il vivait, d'être franc, il était tellement franc, il me disait, je sais ce qu'il gagne, je sais tout. Vous comprenez? Il était tellement transparent. Et j'ai compris qu'en fait, mais moi je peux aussi être moi. Moi je peux aussi me tromper. Moi aussi je peux être à côté. Moi aussi je peux me casser la gueule. Je peux être moi. Et le Seigneur, à travers... cette rencontre a commencé à travailler en profondeur, vraiment en profondeur. Et c'est des choses qui ont pris du temps. Mais ça a libéré plein de choses. C'est-à-dire que, pour un petit peu raccourcir, aujourd'hui, je suis qui je suis. Ces rencontres avec lui m'ont permis d'être qui je suis. La confiance, le fait de savoir qu'il est toujours à côté de moi. Le fait de savoir que quand je vais arriver à Transvision, lui m'écrit déjà des emails. Hey, j'ai vu que t'es à Transvision, c'est trop bien, on va boire une bière ensemble. Rien que des choses comme ça me donnent une sécurité et, une confiance en moi-même. Et j'ai remarqué qu'en fait, du moment où il a commencé à me donner de la confiance, du moment où je savais que peu importe, lui, il est à mes côtés. Et ça a libéré beaucoup de choses. Il y a eu un processus de guérison intérieure extrêmement important parce que j'ai commencé à comprendre la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas... Il n'est pas mort au moment où je me suis converti et après, en fait, il m'attend là, comme ça, il me regarde avec un coin de l'œil et puis à chaque fois qu'il y a un petit truc, ah ben voilà, ça y est, ah, ça y est, voilà. T'as vu ? T'es nul. Pourtant, je t'avais dit de ne pas le faire. Moi, j'avais cette impression-là. Et le fait de vivre avec lui de cette manière-là, de cette liberté d'être qui on est, j'ai compris que la grâce de Dieu est continuelle. Ça ne veut pas dire que je peux faire n'importe quoi. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je tombe ou que je ne tombe pas, il sera avec moi. Jésus m'aime pour qui je suis et non pas pour ce que je sais faire ou je ne sais pas faire. Que je tombe ou que je ne tombe pas, Dieu m'aime. Et quand vous comprenez ça, vous lisez les psaumes et vous vous rendez compte qu'en fait, ça prend toute une autre dimension. Parce que David, il tombait, il demandait pardon au Seigneur, il se relevait et il continuait. C'est pas qu'il était dans son coin en train de se culpabiliser, en train de s'auto-flageller, il continuait. Là, il avait compris que la grâce de Dieu, une fois qu'il accorde sa grâce, elle est donnée. Et c'était extrêmement libérateur. Mais j'avais besoin de cette rencontre, d'un exemple, d'un modèle qui me conduit dans cette guérison intérieure et dans ces démarches-là. Tu veux continuer ?
Je m'appelle Nicolas Brogli, on est ensemble à l'église, je suis pasteur à l'église de Réveil de Bienne. La plupart de mon temps, et puis après j'ai encore un pourcentage pour former et encadrer les responsables de groupes de jeunes de notre famille d'église en Suisse romande. C'est-à-dire que j'ai une église locale où je suis beaucoup investi, et puis après je voyage un petit peu en Suisse romande pour des temps de formation, des temps d'accompagnement avec les jeunes et tout ça. Et avant d'être à Bienne, j'étais à Vevey, j'ai fait un stage pastoral là-bas 3 ans. Et puis, c'est un petit peu là-bas que ça a commencé à se passer. Avant ça, j'aimerais vous dire que je suis marié à Anne, on a deux filles, l'aînée s'appelle Clémence, la deuxième s'appelle Eva. Avant d'être pasteur ou en formation de pasteur, j'étais enseignant à STIT, prof primaire. Et déjà à cette époque, déjà assez jeune, j'ai fait beaucoup de choses dans l'église. Je crois que j'ai touché à beaucoup de secteurs, j'ai essayé des choses. À certains endroits, j'étais très mauvais. À certains endroits, j'étais un peu meilleur, alors j'ai continué là. J'ai essayé de voir ce qui était pour moi. Et puis, j'ai fait beaucoup de camps d'enfants. Et il y a quelque chose dans les soirées de jeunes et dans les camps d'enfants qui m'a vraiment dérangé. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir une vie chrétienne où on voit ces jeunes, où on voit ces enfants avoir un très bon moment, intense avec le Seigneur, ils ont des amis chrétiens, ils te promettent et ils promettent à Dieu tout un tas de choses. La soirée s'arrête, ou le camp s'arrête, ou le week-end s'arrête, et c'est la chute libre. Pendant un temps plus ou moins long, ça dépend quand va revenir la prochaine soirée de jeunes, ou le prochain camp, ou la prochaine convention. Et là je me suis dit, mais on fait tout faux, ça, c'est pas possible, on peut pas devenir un chrétien comme ça, à coup de convention, de camp, de choses comme ça. Il y a un truc qui me dérangeait profondément. À un moment donné, on a commencé un camp d'enfants. Je devais avoir vers 18 ans, quelque chose comme ça. Et deux des jeunes, qui étaient les plus âgés du camp, qui avaient 14 ans, sont revenus cette année-là, alors qu'ils étaient là les autres années aussi. Et quand ils sont venus, on s'est dit, là, il y a un truc qui s'est passé. Il y a quelque chose chez eux qui a bougé. Ils étaient complètement autrement. C'était un frère et sœur et la cousine. Et les trois, on s'est dit, mais c'est incroyable, c'est pas possible, c'est pas juste la maturité, il y a quelque chose. Et on s'est approché d'eux, on leur a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous étiez comme ça l'année dernière ? Pourquoi vous êtes comme ça aujourd'hui ? Et ils ont dit, on a tellement aimé ce camp, ça a tellement touché nos cœurs, que quand on a fini le camp l'année dernière, on a décidé de se retrouver dans la cabane de jardin, une fois par semaine, Et on a chanté les chants du camp avec le petit livret, et c'est des Français. Et on a mangé du chocolat suisse, parce que le camp était en Suisse. Et on a fait ça chaque semaine, on a prié ensemble. Et personne ne leur a demandé, hein. Ils ont fait ça tout seuls, comme des grands de 14 ans. Et là, je me suis dit, là, il y a une piste à explorer. Là, il y a quelque chose de la continuité à trouver. Et après, j'ai entendu pas mal de personnes s'exprimer sur le sujet du discipulat. Et quand j'étais à l'école biblique, j'ai fait Libetor, c'est une bonne école, inscrivez-vous. Beaucoup de profs, c'était pas du tout leur domaine, mais régulièrement disaient, ça serait bien que vous passiez du temps avec quelqu'un de plus âgé que vous. Ça serait bien que vous ayez quelqu'un, une sorte de coach, une sorte de mentor. Chacun le définissait un petit peu autrement. Et ça a alimenté ma réflexion. Et quand j'ai fini l'école biblique, je suis parti en stage pastoral. Et on m'a dit, là, je suis arrivé à l'église de Réveil à Vevey. On m'a dit, voilà, il y a un pasteur dans cette église. Ça s'appelle ton maître de stage. Lui va s'occuper de l'église. Ça, c'était un peu implicite, hein, c'était pas clairement comme ça. Ça veut dire qu'il travaille avec les gens qui ont 30 ans et plus. Et tous les autres, ce qui n'est pas vraiment l'église, c'est toi qui vas t'en occuper. C'était pas comme ça dans l'église. C'est pas mon ami pasteur qui a dit ça, maître de stage. C'est pas lui. C'est comme ça que j'ai compris les choses. Et j'ai compris, je vais m'occuper des 0 à 30 ans. Et j'ai commencé à mettre des SMS. Je crois que j'ai jamais mis autant de SMS de ma vie. Je me suis ruiné. Après, j'ai trouvé une fonction où on peut avoir les SMS illimités. C'est très, très intéressant pour moi. Bref, je mettais des SMS aux jeunes. Je disais, écoute, on va se voir. J'ai juste envie qu'on fasse un petit peu connaissance. On se donne rendez-vous à cet endroit. Et j'avais des fois des retours étonnants. Les jeunes disaient, mais pourquoi? Ils avaient un peu peur. Ils disaient, attention. Et petit à petit, la confiance a été gagnée avec beaucoup, beaucoup de jeunes. Et je pense presque tous m'ont dit, mais tu sais, c'est la première fois qu'on fait ça avec moi. Je dis, quoi, t'as jamais vu un pasteur? Je dis, non, c'est un truc de grand, ça. Je dis, t'as jamais un responsable de groupe de jeunes qui a fait ça avec toi? Non. C'était responsable de groupe de jeunes, ils organisent des soirées. C'est pas juste, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Et ces jeunes étaient là devant moi. Et très rapidement, après un coca, un café, un McDo, ça dépendait, tout de suite, ils viennent avec leur vie. À la maison, ça gueule tout le temps. J'ai couché avec ma copine, est-ce que je vais être obligé de faire ça à chaque fois avec chacune? Est-ce que ça va être toujours aussi mauvais? Est-ce que ça va être toujours comme ça? J'ai envie de partir de la maison, je ne m'en sors pas dans mon apprentissage, mes études m'apportent dans un endroit sans issue, et des choses très très profondes. J'ai touché à l'occultisme, j'ai fait ça... Et on ne se connaissait pas. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Tu n'es pas obligé. Tu devrais avoir honte de ce que tu me dis. En fait, ils disaient ça parce que ça les aidait. Et ça allait les mener plus loin. Alors j'en ai mis de la thune pour des coca, des McDo, des cafés et tout ça. Et quand j'en avais plus, alors on allait juste se promener. On ne dépense jamais d'argent pour l'évangélisation. On investit l'argent. C'est une petite parenthèse. Et j'ai commencé à lire beaucoup de choses. J'ai vraiment voulu comprendre comment on peut faire des disciples. Parce que là, je voyais qu'il y a quelque chose qui fonctionnait très bien. Et je faisais ça aussi avec les responsables de groupe de jeunes. Et quand on finissait le moment, je leur disais, mais ça serait bon. T'as aimé ce moment? Ils disaient, ouais, c'est génial, on va se voir dans 2 semaines, dans 1 mois. Je dis, ok, mais ça serait bon que tu fasses la même chose avec d'autres plus jeunes. Et j'ai vu des jeunes engagés dans mon église. C'est l'église de Jésus, pardon. Des jeunes engagés dans notre église. Des jeunes qui étaient responsables, d'autres qui ne l'étaient pas, qui commençaient à faire ça. C'est « Ah, ben je me sens bien avec tel et tel, allez, on va aller promener ensemble, on va aller faire du sport ensemble, on va sortir ensemble, on va aller voir tel concert parce que je sais que l'autre il aime ça comme musique. » Et les jeunes ont commencé à faire ça. Et moi je ne m'occupais plus de ça. Mais il y avait un petit problème, quelque chose qui m'a un petit peu peiné. C'est qu'au moment des examens, au moment de la fatigue, au moment où ces responsables ou jeunes engagés voyaient que... ça ne servait à rien de faire ça avec les jeunes, ils arrêtaient. Et du coup, ça reposait sur mes épaules. Parce que moi, j'étais pasteur, moi, j'avais le temps pour faire ça. Mais même si j'avais le temps pour ça, je n'avais pas assez de temps pour voir tous les jeunes. Parce qu'après, il fallait aussi voir un peu les moins jeunes. Et puis après, il y avait des nouveaux jeunes qui arrivaient. Parce que les jeunes, ils venaient au groupe de jeunes, ils apportaient leurs copains. Et puis, ils disaient, ah, mais il faut que tu vois tel et tel parce qu'il est en train de se convertir à l'école. Je dis, oui, d'accord, c'est bien, mais tu ne peux pas t'en occuper. Ah, mais non, je ne sais pas comment faire. Alors, ça bougeait beaucoup. J'ai commencé à lire. Et j'ai lu un livre, vraiment, j'avais plus d'exemplaires, parce que normalement j'en prends toujours avec moi, mais là j'ai tous vendu, donc je peux que vous donner les références. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment super, et j'aimerais juste dire quelques mots après aussi là-dessus. Ça s'appelle « Une Bible du Café des Disciples ». Qui a lu ça? Une Bible du Café des Disciples. Personne n'a lu ça? Ouais, sûr. C'est aux éditions, ok. C'est aux éditions clés, c'est un peu blanc, avec des taches de café dessus. Ça s'appelle « Une Bible du Café des Disciples », c'est de Neil Cole. C'est un Américain, mais les Américains disent aussi des bonnes choses parfois. J'ai pas de problème avec ça, peut-être qu'on oublie. Et là, ça m'a amené un petit peu plus loin. On aimerait aussi avec Ivan ne pas rater l'importance de vous parler de la multiplication. On a déjà un petit peu parlé ce matin. On aimerait vous donner des pistes concrètes aussi. Ce que j'aimerais encore dire, c'est que dans tout ce processus, dans ces lectures et dans tout ça, en 2008 à Transvision, ici j'y étais. Et il y a quelqu'un qui a pris la parole, grand responsable de Suisse romande. Et il a parlé de comment il servait Dieu, et il a donné deux points sur lesquels il servait Dieu. Je ne vais pas vous dire parce qu'après vous allez savoir qui c'est. Je n'en ai pas parlé. Et ces deux points m'ont tellement touché, je me suis dit, j'ai besoin de passer du temps avec cette personne. C'était en 2008, je ne sais plus si c'était le lundi, le mardi ou le mercredi. À la fin, je suis allé le voir. Je lui ai dit, écoute, voilà, je m'appelle Nicolas. On ne se connaît pas, mais j'aimerais passer du temps avec toi. J'aimerais qu'on se voit, qu'on mange ensemble, qu'on discute ensemble. Pas un truc spirituel, je veux pas qu'on prie ensemble. Ça, certainement, ça allait venir parce qu'on aime Jésus. Mais je voulais qu'on discute ensemble, qu'on passe du temps ensemble. Il a dit, ok, laisse-moi ton mail, je vais réfléchir. Et quelques semaines après, il a dit, ok, on va se voir. Et on s'est vu environ une fois tous les deux mois. Et là, j'ai posé toutes mes questions. Et un truc qui m'a vraiment ébranlé, ça, je vous le donne, c'est une petite surprise. À un moment donné, parce que moi, j'étais curieux et j'ai besoin de choses très concrètes pour avancer. Je lui ai dit, comment tu pries? Et je crois que j'aurais pas dû poser cette question. Mais c'était une bonne chose quand même. Je dis, comment tu pries? Raconte-moi. Elle a dit, je me lève à 5 heures, je prie jusqu'à 6 heures. Après, je prépare un petit peu le déjeuner, je déjeune avec tel et tel de mes enfants. Et après, je retourne dans mon bureau et je lis encore la Bible. Là, je dis, oh, je ne vais pas y arriver, ça ne va pas être pour moi ça. Mais en fait, je suis retourné dans ma voiture et je me suis dit, mais il aurait pu me dire, hé, toi, t'en es où? Alors, tu sais, un peu de pression ou un petit peu de ce truc évangéliquement correct qui m'aurait beaucoup détruit. Et rien de tout ça. Et juste à cause de cette discussion, il y a eu une force, une envie, une pêche en moi qui est venue. Je me suis dit, et si je le faisais? Alors, je ne suis pas encore là, mais ma vie a profondément changé au contact de cet homme. Pas parce qu'il a tout réussi, non. Parce que la fois suivante, je lui ai dit, qu'est-ce que t'as raté? Non, c'est pas vrai, c'est lui. Il m'a dit, il rentrait de vacances. Il me raconte ses vacances. Il me dit, tu vois, dans ses vacances, on a fait tellement de choses avec les enfants, avec ma femme. Je voulais vraiment passer un temps de qualité et tout ça. En fait, j'ai pas pu avoir de temps avec le Seigneur. Puis ça, c'était tellement différent de ce qu'il m'avait dit la dernière fois. Je lui ai dit, il commence à ressembler à quelqu'un de normal. Enfin, il commence à me ressembler, en tout cas. Je sais pas si c'est normal, mais ça commence à me ressembler. Et il y avait beaucoup de grâce, beaucoup de compassion. On a abordé tout un tas de choses. On allait souvent manger ensemble. C'était un grand responsable. Moi, je me suis dit, il va m'inviter au resto, je ne sais pas, un truc, tu vois. Et en fait, il allait chercher sa petite assiette pour micro-ondes. Tu avais presque Hello Kitty dedans. Non, j'exagère. Mais le truc que tu prends à la maison, un petit peu dans tes restes de vieille vaisselle et tout ça. Et j'ai vu beaucoup de choses. C'est comme Ivan disait, tu passes du temps avec quelqu'un, tu le vois vivre. Et ça m'a profondément touché. Et là, en arrivant à ce Transvision 2012, j'ai dû aller vers lui, avec un petit cadeau, un petit mot. Et je lui ai écrit, c'était un verset sur la joie, je ne sais plus quel psaume. Et je lui ai dit, cette joie que décrit ce psaume, je la vis. Et certainement, tu y as été pour quelque chose. Et j'aimerais vraiment te dire merci du fond de mon cœur. Je donne un livre sur le discipulat, sur ce genre de choses qu'on discutait beaucoup ensemble. Parce qu'aujourd'hui, à cause de mon déménagement, de ma vie un petit peu ailleurs, on peut plus voir. Et pour moi, c'était une étape très importante. J'en ai beaucoup bénéficié. Et je suis arrivé à Vienne. Et j'avais toujours mes livres, mes idées, les souvenirs des jeunes et tout ça en tête. Et je me suis dit, mais pour moi, comment je vais continuer? Parce que je ne peux pas que soigner les jeunes. Et là, j'ai contacté Ivan. Et je lui ai dit, écoute, voilà ce que j'aimerais vivre. J'aimerais passer une heure par semaine avec quelqu'un. Et on va confesser nos péchés, on va s'encourager l'un l'autre. Ça va nous prendre juste une heure par semaine. Et d'une rencontre à l'autre, on va décider ensemble qu'est-ce qu'on va lire de la Bible. On a décidé combien de chapitres ensemble. Et on a décidé un nombre conséquent de chapitres. Parce qu'on voulait que ce soit la Bible, la parole de Dieu, notre nourriture. Et pas la télévision, les activités fun, les barbecues chez les voisins. Et on a décidé beaucoup de chapitres. Et du coup, quand j'ai arrivé au rendez-vous, parce qu'il a accepté entre-temps, quand j'arrive au rendez-vous, j'avais pas envie qu'il ait fini la lecture et moi pas. Et lui aussi. Et c'était un bon challenge. On a beaucoup lu la Bible. Et très vite, il m'a ouvert son cœur. Il m'a dit des choses très moches. Et moi, j'ai ouvert mon cœur. Et je lui ai dit des choses très moches. Mais Dieu est intervenu. Et ces choses moches ont été soit complètement enlevées, parce que dans la discussion, on ne peut pas vous donner les détails, mais on a inclus une troisième personne qu'on a invitée à un moment donné avec nous. Et en 6 semaines, que ce soit dans sa vie, dans ma vie ou dans la vie de l'autre, on a vu des choses grosses comme une maison. Des gens traînent ça pendant des années. Et là, c'était réglé. C'est pas à cause de nous, c'est à cause de la puissance de Dieu. Et c'est pas une affaire de génération, parce qu'on n'a pas le même âge, on n'a pas le même âge que le troisième qu'on a invité. Ce que je vous dis là, je cherche à le vivre aussi avec les plus jeunes. La première fois que j'ai dit aux jeunes, je vois des jeunes une heure par semaine, des jeunes convertis. Je leur ai dit, ok, ça stagne un petit peu ce qu'on vit ensemble. La prochaine fois, on va lire la Bible ensemble. On va lire 20 chapitres de la Bible pour la semaine prochaine. Ils m'ont dit, non, mais attends, tu rigoles, déjà, ah, j'arrive pas à le finir. J'ai dit, écoutez les gars, c'est deux jeunes hommes. J'ai dit, écoutez les gars, on essaye. Ok, d'accord, on essaye. Vous croyez quoi la semaine suivante? Mais bien sûr qu'ils l'ont fait. Et la semaine après aussi. Et la semaine après aussi. Et quand on n'a plus pu se voir, parce qu'il y avait trop de choses dans l'agenda, bon, on ne s'est plus vu, parce que c'est moi qui manageais, qui envoyais les SMS, qui fixais les dates. Alors, on ne s'est plus vu quelques semaines. Mais il y a 2 semaines en arrière, les deux, les trois, puis il y en a un troisième qui s'était ajouté, les trois m'ont mis un SMS. Hey « Eh Nico, on recommence? Quand c'est qu'on va se voir ?» Je dis « Ok, ça marche. » Et on a recommencé. Et c'est eux qui ont demandé. Alors, peut-être on aimerait donner quelques pistes concrètes maintenant de ce qui nous a touché avec les gens avec qui on a passé du temps et ce qu'on voit qui touche les gens. Viens, on va le faire les deux, puis on va prendre un petit peu ça en vrac. On va essayer d'être le plus concret. Vas-y, si tu as quelque chose qui vient à dire.
Pour moi, il y a 3 grandes lignes qui étaient importantes que j'aimerais partager avec vous. Moi, je l'ai en allemand, hein, donc j'essaie de traduire de l'allemand. Je le dis d'abord en allemand. Le premier, c'est « fördern ». Non, pardon. Le premier, c'est « finden », c'est-à-dire « trouver ». Le deuxième, en allemand, c'est « fördern », qui veut dire « développer ». Et le troisième point, c'est « freisetzen », c'est « libérer ». Ces 3 points, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Si on attend que les jeunes d'eux-mêmes commencent à venir vers nous et nous demander des choses, hey, est-ce qu'on peut se voir ou comme ça? Je crois que c'est faux. C'est à nous, on va dire, les adultes, d'aller vers eux. On a entendu un excellent message ce matin par rapport à est-ce qu'on a envie de s'engager auprès d'autres jeunesses. C'est à nous d'aller vers les jeunes. À nous d'aller les trouver. Ça, c'est la première chose. Trouver. La deuxième chose, fördern. Ça veut dire développer. Pour moi, ce qui était très important avec Martin, c'est que lui s'est mis à mon niveau. Il aurait pu me parler avec des grandes théories théologiques, etc. Théologiques, on dit en français. Théologiques et autres. Il ne l'a jamais fait. Il ne s'est jamais mis en avant. Il ne m'a jamais mis mal à l'aise. Il ne m'a jamais jugé. Jamais. Il m'a seulement rejoint. Même quand je disais des choses pas belles ou j'avais l'impression d'être complètement à côté, il me racontait que lui aussi, il s'est totalement planté. « Oh, je te raconte une histoire. Oh, ça me rappelle ça. Oh, si tu savais comme je me suis planté. » Donc, il s'est mis à mon niveau. Il m'a rejoint. Et si vous regardez un petit peu dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a trouvé les 12. C'est lui qui les a choisis. Ensuite, il a vécu avec. « Toi, toi !» Venez, on va prier. Et ils montaient sur la montagne. Il leur montrait comment faire. Il vivait avec eux. Comme il disait, j'ai bien aimé Mathias ce matin, quand il disait, probablement il puait des pieds, on ne sait pas. Mais c'est ça. Quand tu vis, quand tu es proche de quelqu'un, tu sais tout. Et là, oui.
Je peux vite dire ça. Luc 13, 22, Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Jésus a... À ma connaissance, jamais couru d'un endroit à l'autre, stressé, parce qu'il n'arrivait pas à tout faire. Encore Luc 8, les premiers versets. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, après la description de ces femmes. Les gens étaient là. Il y a 2 choses qui me touchent dans la vie de Jésus. C'est qu'il a marché, il n'a pas couru. Il était entouré de monde, il y en a même 3. Et la puissance de Dieu était là. Les vies étaient changées. Je continue.
Donc, le troisième point, libérer. Il ne faut pas croire, Martin, il ne m'a pas donné il m'a pas dit, voilà, tu dois faire comme ça, et puis quand tu seras dans cette situation-là, tu vas faire... Pas du tout, pas une seule fois, pas un seul mot. Mais à un moment donné, il a commencé à me libérer. Je te fais confiance. Moi, je suis avec toi. Moi, je suis pour toi. Vous savez, moi, j'étais comme devant une très grande foule, avec deux pains et trois poissons. J'étais là, c'est tout ce que j'avais. J'avais rien d'autre. J'avais deux pains, trois poissons. J'avais rien. J'avais pas d'instrument ou de tactique ou de théorie. J'avais rien du tout. Et lui m'a envoyé, il m'a dit, tiens, prends les deux pains, les trois poissons, t'en, vas-y. Maintenant, débrouille-toi. Et il m'a libéré.
Olivier Fleury, son introduction ce matin, a dit « La multiplication n'arrive pas sans amour ». Alors, on ne sait pas si vous voyez ce matin notre amour pour les gens, mais je pense qu'il doit y en avoir un minimum, parce que sinon, on ne serait pas intéressé par ce genre d'atelier, et puis on n'aurait pas vécu ce qu'on essaye de vivre. Il a dit aussi « La multiplication n'arrive pas sans stratégie et sans réflexion. Ça ne se fait pas tout seul. » Et nous, on n'aimerait pas finir cet atelier en vous laissant un petit peu ce goût amer, vous vous dites « Mais super les gars, ça a l'air sympa ce que vous faites, c'est beau, mais c'est pas ma réalité, et surtout je vais pas y arriver. » Nous, on aimerait vous communiquer un truc qui est important à nos yeux, c'est qu'on croit que ça nécessite de poser une de quelques habitudes dans nos vies. Donc il est question d'une structure, ça peut être une structure lourde, mais c'est décider pour nos vies le nombre que vous voulez d'habitudes. Et ces habitudes vont vous permettre d'être en relation avec les jeunes. Comme a dit Ivan, et moi, c'est vraiment juste, rarement les jeunes vont venir spontanément vers vous, comme ce verset qui dit que le cœur des pères ira au fils et le cœur des fils ira au père. C'est intéressant de voir que c'est le cœur des pères qui ira d'abord au fils. Par contre, au moment où tu tends la main, au moment où tu vas vers un jeune, où tu lui dis, viens, on va faire un squash ensemble. Alors, je te promets qu'il va y avoir un retour sur investissement. Incroyable. Ouais. Au moment où tu donnes ton cœur, au moment où tu donnes ton temps, et là, c'est plus dire « Ah, il faut faire ça, il faut passer une heure par-ci, il faut... » Non, c'est une petite structure, c'est une petite habitude. On ne pourra pas, je crois, voir des disciples dans la jeune génération ou dans les moins jeunes générations si on ne choisit pas d'avoir quelques habitudes dans nos vies. Jésus aurait pu courir d'un coin à l'autre tout seul. Il a choisi de marcher, il a choisi d'être accompagné par des gens. Dans les gens, il y avait les 12 et les 3, les disciples que Jésus aimait. Il y avait les foules. Les gens ont vu différentes choses. Jésus a enseigné ou a donné un accent différent en fonction du public. Avant, j'ai parlé des choses moches dans ma vie, des choses moches chez Ivan. Ça sort entre nous. Ça ne sort pas avec d'autres. On a décidé ce lieu de confidentialité, on a décidé nous-mêmes le cadre qu'on voulait donner. Et quand on a invité une troisième personne qui pleurait sur l'épaule d'Ivan à la fin d'un culte parce qu'on avait prêché sur ce concept-là, elle pleurait cette personne, elle était touchée par le Seigneur depuis environ un mois, et à la fin, Ivan et la personne viennent vers moi, et ce jeune converti, un homme, je ne sais pas, peut-être 35 ans, 40 ans, il dit « Mais ce que tu as dit, je veux ça, je veux passer du temps avec quelqu'un. » Mais je suis nouveau dans l'église, je suis un jeune chrétien, il faut m'aider, j'ai personne. Et nous on a dit, bah, viens chez nous, viens avec nous. Il a passé 6 semaines avec nous, à raison d'une heure par semaine. Il a vu ça, mais ça n'a pas tardé, hein. Il n'a pas été timide. La première rencontre, on voulait lui montrer comment on faisait. Alors Ivan a ouvert son cœur, après j'ai dit, ok, on va prier pour Ivan. J'ai prié pour Ivan, et après il a commencé à prier le gars, le nouveau, très maladroitement.
Première fois, hein.
Et nous, on n'a pas compris pourquoi il était maladroit. Et à la fin, il nous dit ça. Il nous dit, ah, je m'excuse, c'était peut-être pas très beau, mais c'était la première fois que je priais. Alors on s'excuse, on dit, oh, mais non, on est désolé, on voulait pas te forcer, quoi que ce soit. Il a dit, non, c'est bon, c'est une bonne chose comme ça. Depuis ce jour-là, il prie à moi. Tu vois. Et quand c'était son tour, ben là, il a lâché une bombe. Hein. Là, il dit, voilà ce qui se passe chez moi. On dit, ah ouais, ça c'est pas beau, en effet. Mais Dieu t'aime, et nous on t'aime. Comme ça dit le proverbe en allemand, là, nous on va être de ton côté. Et nous, on ne va pas te lâcher. Nous, on va voir ça réussir. La semaine suivante, on a dit, alors, il a dit, c'est bon, je sais. rien à vous dire sur ce domaine. C'était comme ça. On dit waouh. Et après, il a donné une autre bombe. Il a dit encore ça. On a dit oh, c'est pas possible. Non, on n'a pas dit ça. Parce que nous aussi, on lâchait des bombes. Il y a aussi des choses vilaines, des choses qu'on voulait voir changer dans nos vies. Et moi, on aimerait vraiment vous encourager à vivre cette proximité avec des jeunes. Ouais. Et peut-être ça pourrait pour vous être un petit pas dans la direction de ce qu'on a entendu ce matin. Parce que peut-être que vous n'avez pas encore de chambre d'amis ou de maison qui permet de vivre en communauté comme on a entendu ce matin. Peut-être que vous vous dites « Ah, j'y arriverai jamais !» Alors commencez avec une heure par semaine. Commencez avec des relations de proximité de ce genre-là. Parce que ça, peut-être c'est plus facile pour vous actuellement.
J'aimerais juste dire deux, trois mots sur cette troisième personne, jeune converti. Ce qui était exceptionnel, c'est de voir un jeune converti prendre de la beauté. Il a commencé à grandir, comme il disait ce matin. Nous, on se regardait, on n'en revenait pas. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, lui, il a lui-même ce duo de prière. Hein, et pas seulement, en très peu de temps, moi, je vous dis, il est plus mature que beaucoup d'autres qui sont depuis longtemps chez nous. Simplement à cause de la proximité.
Ce qui m'a bloqué quand je vivais le coaching avec les jeunes, c'est que moi, je suivais peut-être 5 jeunes. Et sur les 5, il y en avait 2 qui en suivaient chacun un. Et quand ils, je vous l'ai dit, quand ils arrivaient en période d'examen ou en période chargée, ils lâchaient le morceau. Donc ça continuait que moi avec les 5. Si j'avais pas une urgence ou quelque chose qui me tombait dessus en dernière minute. Donc c'était un petit peu limité. Et j'ai remarqué dans ces années que ça ne se multipliait pas. Il fallait tout le temps mettre de l'énergie, tout le temps être derrière pour pousser. Et à un moment donné, je me suis dit, on va s'arrêter avec ça, on va faire autrement. Et c'est là qu'on a commencé avec Ivan. Et là, on a dit, on verra, on commence à 2. Et un jour, j'en ai parlé à l'église. Et après que j'en ai parlé à l'église, très peu de temps après, Ivan et moi, on était dans l'endroit où on se rencontre, on a un petit coffee bar à l'église, et il y a une femme qui débarque. Je lui dis, écoute, on est là, mais on va peut-être te trouver une autre salle. Alors je sors, je lui dis bonjour, je lui dis, mais en fait, tu fais quoi là? Il dit, ah, mais t'as dit qu'on devait se retrouver, confesser les péchés, prier ensemble, avoir de la proximité, alors on commence. Je dis, waouh, ça c'est super, une femme de 70 ans, je pense. Donc ça faisait un deuxième groupe. Après, il y en a un troisième qui m'a dit, ben voilà, je trouve tel et tel. Il l'appelle son garagiste, parce qu'il va chez lui, il discute de ce qui ne va pas chez lui, et tout ça. Et actuellement, on est entre 5 et 10 groupes de ce genre dans l'église. Et c'est allé très vite, nous on a commencé en septembre dernier. Donc ça va très vite. Et, parce que la troisième personne qu'on a invitée 6 semaines avec nous, on peut plus voir les 3 pour raison d'agenda, on est dans une période de multiplication. Et là, on est tellement réjouis de ça. Parce que lui nous a dit, c'est pas question que j'arrête ça. On a dit, c'est une bonne chose. Alors lui a déjà des noms en tête, il contacte des personnes. Et nous, de notre côté, on le fait aussi parce qu'on veut vraiment lui donner un bon cadre, lui donner qu'il puisse continuer ça.
Il l'a déjà.
Ah, il l'a déjà. Ah, ça, je ne savais pas cette information. Oh, super. Merci Seigneur. Oh, ça, c'est vraiment...
Le but, c'est vraiment que ces petites cellules prennent des jeunes avec... qu'on puisse les intégrer, qu'on puisse les rejoindre comme on a développé avant et qu'eux-mêmes après, ils vont. Le faire juste nous, puis c'est chouette et comme ça, ça n'a pas de sens. C'est bien, pour nous c'est super, mais le but c'est, on va reprendre un autre. Ça va se multiplier. C'est ça le but.
On essaie d'être concret. On aimerait mettre un accent sur la régularité. Peut-être vous êtes responsable de groupe de jeunes ou pasteur et vous vous dites, mais... Je dois m'occuper de tout le monde. Alors, je ne peux pas faire ce que tu dis, Nicolas, je ne peux pas faire ce que tu dis, Ivan, parce que je dois m'occuper de tout le monde. J'aimerais pas que tu te fatigues et que tu sois déçu du résultat. C'est pour ça qu'on vous parle de régularité. Nous, on croit plutôt à faire peu, faire mieux.
Qualité.
Donc, tu commences avec moins de personnes, peut-être. Après, il y a les urgences, de toute façon, tu devras les faire. Après, il y a tes soirées ou tes impératifs. De toute façon, tu devras le faire. Mais dans le temps qui te reste libre, essaye d'être proactif, d'aller un petit peu en avant, de dessiner toi-même, dans la prière. Seigneur, mais avec qui je vais passer du temps? Est-ce que c'est pour les femmes, une femme? Est-ce que c'est madame, telle et telle? Pour les messieurs, un monsieur? Est-ce que c'est monsieur, telle et telle? Et puis, vous discernez avec le Seigneur une ou deux personnes. Ça ne veut pas dire que les personnes vous diront oui, je vais le faire avec toi. Ils vous diront non, mais faire peu, faire mieux. Et essayez d'avoir avec ces gens la régularité. Et on aimerait aussi mettre un accent fort sur l'authenticité, le fait d'être vrai. C'est pas parce que vous êtes le responsable que vous devez être Bruce Tout-Puissant. Parce que un jour, ça va se craquer. Un jour, les gens ils vont voir que ça ne tient pas la route. Et ça fait peur de dire les choses. On a discuté de ça hier soir dans le repas festif avec quelqu'un qui était en face de nous. Et après avoir raconté deux, trois informations, le gars qui était en face de moi, qui est un pasteur, il a dit, mais tu peux vraiment dire les choses de ta vie? Je lui dis, mais qui suis-je pour demander à l'autre d'ouvrir son cœur et moi le tenir fermé? C'est pas juste. Pendant longtemps, avec les jeunes, avec d'autres, il y avait deux niveaux. Il y avait moi qui convoquais et qui aidais les autres. C'est ça que... Ça arrive, des fois on est obligé de travailler comme ça, quand on veut entraîner les autres plus loin, quand on veut les former, oui. Mais je me suis dit, c'est aussi important d'avoir des moments où on est sur le même niveau. Quand on se retrouve avec Ivan, il n'y a pas de thérapeute et il n'y a pas de personne à soigner. On est sur le même niveau. Il a son temps de parole, il a le mien. Parfois c'est lui qui déborde et moi j'en ai moins parce que c'est son moment. Et parfois c'est l'inverse parce que c'est mon moment. Et ça se vit vraiment dans la liberté. Et puis, on aimerait aussi mettre l'accent sur le feedback, avoir une culture de feedback, une culture de redevabilité. Ça veut dire que Ivan a le droit de venir me dire, Nicolas, sur ce point-là, qu'on en ait parlé ou qu'on n'en ait pas parlé, il me dit, t'en es où? Et moi, je vais devoir lui répondre, parce que je l'ai choisi. Et ça, et c'est un garde-fou, ça va protéger ma vie, ça. Pareil pour lui.
Exactement.
Pareil pour les jeunes. Pareil pour la délégation. Quand tu demandes à quelqu'un un service, après tu lui demandes, mais c'est comment? C'était comment pour toi? Puis tu lui dis, ça c'était excellent, ça je ne veux plus jamais le voir. Je peux donner des cas coupables à la délégation?
Bien sûr.
On prend tout à coup la délégation là-dedans parce que c'est très très proche. Donc on espère que ça ne saute pas trop du coq à l'âne. Le pasteur Claude Houd a donné 4 pas vers la délégation qui sont une très bonne aide pour moi. Et on peut aussi les avoir dans ce genre de relation. Surtout quand on veut travailler ensemble. Le premier pas, c'est je fais et tu regardes. Le deuxième pas, c'est je fais et tu m'aides. Le troisième pas, c'est « tu fais et je t'aide ». Le dernier pas, c'est « tu fais et je regarde ». Et les chrétiens, depuis longtemps, enfin ceux que je connais et ceux que j'ai vus, ont été les spécialistes pour le premier pas et pour le dernier pas. Et ils ont été très mauvais dans la délégation. Et ils ont été souvent pas très bons pour faire des disciples. Parce qu'ils ont dit « regarde comment il faut faire, et après vas-y débrouille-toi ». Et les gens se sont cassés la figure. Les gens ont souffert, ils n'ont plus jamais voulu toucher à ça. Et il y a les deux pas du milieu. Faire ensemble. Faire ensemble. Une fois, c'est moi qui vais le faire, encore, mais l'autre va m'aider. Et il va y avoir déjà des petites tâches qui sont déléguées. Et l'étape d'après, c'est l'autre qui va faire. Et nous, on va aider. On dirait, t'as pensé à ça? Écoute, j'ai un petit doute là-dessus, mais je veux bien te faire confiance. Et si ça foire, je vais être là avec toi. On va gérer ça.
Il y en a un cinquième.
Vas-y.
Tu le fais pour d'autres. Ou tu le fais pour d'autres.
Très bien. Après, il y a... Ça m'aide que ça soit 4, que ça rythme comme ça, mais bien sûr, on veut que ça se multiplie, bien sûr, on veut...
Ça recommence.
Si on veut parler de régularité, d'authenticité, de feedback, alors c'est l'importance des rencontres hebdomadaire, ou en tout cas assez rapproché.
Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ça, si ce n'est faisant confiance aux jeunes et donnons-leur des responsabilités. Je ne vous parle pas de diriger l'église, mais il faut responsabiliser les jeunes. Parce qu'ils ne vont jamais apprendre. On a tendance à... J'ai beaucoup aimé Mathias dans je crois que c'était dans un atelier, il disait que quand j'ai vu un de mes enfants qui voulait manger la première fois, seul, il voulait absolument pas qu'on l'aide, alors il prenait sa cuillère et puis il est comme ça, il y en avait partout. Et puis, on a tendance à faire, oh non, stop, on nettoie tout, non, ouvre la bouche, c'est moi qui te donne, tiens, prends. Et c'est faux, il faut que cet enfant ait le droit de faire, par contre, il faut être à côté. Puis, non, attends, viens, doucement, regarde, tu fais comme ça, tu ouvres bien ta bouche, et maintenant tu vas vers ta bouche avec ta main. Puis on l'aide un petit peu comme ça. Mais c'est lui qui doit faire le travail. Très important.
C'est une question. J'aimerais vous entendre un peu s'il y a des réactions, s'il y a des questions, sans qu'on puisse discuter un moment ensemble. Donc soit vous parlez très fort, soit peut-être on redit la question pour l'enregistrement, s'il fonctionne.
Est-ce qu'avant d'accueillir cette troisième personne, vous aviez déjà dans l'idée que votre binôme allait se transformer en trinôme, ou c'est venu comme ça en fait?
Franchement, c'est venu comme ça.
Est-ce que vous aviez cette stratégie de départ, j'ai envie de dire?
Je ne sais pas. Nous, au début, on pensait une fois lancer l'affaire et voir. On savait pas trop, bien sûr qu'on voulait multiplier, mais on ne savait pas trop encore. Quand cette troisième personne est venue, c'était un peu, ah bah tiens, bah voilà, bah parfait. Si tu veux, ça s'est fait un peu naturellement, et je pense que c'était vraiment Dieu qui a conduit les choses, quoi.
Ouais, là, on a vraiment vu la main de Dieu. Ouais. Bon, on était ouverts. Pour moi, c'est clairement quelque chose que j'attendais. On avait décidé avec Ivan de commencer les deux parce qu'on ne savait pas quelle troisième personne prendra avec nous. Parce que moi, je pense que c'est droit à deux ou trois maximum. Et la personne supplémentaire, donc à quatre au tout grand maximum, puis on a un groupe de trois, c'est la personne qui vient avec nous un moment pour voir, pour goûter, pour voir combien c'est précieux pour elle. Et après, cette personne-là va partir, trouver quelqu'un d'autre, ou alors, s'ils sont quatre, faire deux groupes de deux. Pour moi, il y avait vraiment ce souci de la multiplication. Que moi j'ai découvert dans la lecture de ce livre, notamment avant, j'avais pas compris ça. Il me manquait une petite pièce.
Mais il n'y avait pas non plus l'idée de départ que ça se fasse pour un temps limité avec la troisième personne et qu'après vous vous retrouviez de nouveau tous les deux. Finalement, ça s'est joué.
Si.
Parce que vous disiez que c'était l'agenda qui a fait que finalement ça n'a pas duré plus de 6 semaines.
On avait l'envie d'être ensemble un temps, mais on ne savait pas combien. On débarque un peu, nous. Hein,
Dans ce cas précis, oui, effectivement, c'est l'agenda qui a décidé. Mais nous, on pensait que ça allait aller plus loin avant de pouvoir l'envoyer. Nous, on pensait une année comme ça, je pense. Et puis après, l'envoyer. Mais là, ça
s'est donné. On est sûr que ça marche bien, tu sais bien. Parce qu'on est un peu heureux, des fois.
Deux pains, trois poissons, j'avais rien d'autre.
Non, on voulait. J'ai bien aimé comme Ivan a dit, on voulait lancer l'affaire. On voulait plus en rester qu'à la discussion, bien dire, mais. Et puis toujours discuter dans tous les sens, on a dit, il faut une fois essayer. Est-ce que l'Église va être partante? Est-ce que ça va aller loin dans la propagation? On ne savait pas. Et on est venu nous chercher pour faire cet atelier ici. Entre-temps, moi j'ai prêché ça et cherché à le vivre ensemble dans beaucoup de groupes de jeunes en Suisse romande. Ça se passe un peu tout seul, tu vois. Ça, c'est vraiment des cadeaux du Seigneur. Puis quand on arrive dans un week-end comme ça, où il y a quand même beaucoup de lignes qui vont dans la même direction, on reconnaît aussi, enfin c'est mon avis personnel, on reconnaît un mouvement de Dieu sur la Suisse romande. Et je pense que c'est un peu plus vaste que la Suisse romande.
Comment arrivez-vous à faire passer la règle de la confidentialité absolue entre les personnes?
On prend le risque que peut-être un jour quelqu'un va lâcher quelque chose. Si on ne prend pas ce risque, on ne va pas le faire.
Et quand les problèmes dépassent la simple situation de confession mutuelle, il y a besoin d'autre chose, de lier des délivrances par exemple, comment procéder?
On fait tout ce qu'on peut, et quand ça ne suffit pas, on va chez quelqu'un de plus compétent.
Voilà.
On a vraiment le souci de voir le Seigneur libérer nos vies. Là, les choses qu'on a entendues...
Après, la confession ne suffit pas.
Oui, je suis d'accord. Oui. Les choses qu'on a entendues étaient des choses assez lourdes. Et ça aurait pu aboutir sur une relation d'aide classique ou sur la visite de spécialistes, entre guillemets. Et nous, on était prêts à ça, parce qu'on ne prétend pas tout savoir. Mais là, on a dit, on va prier ensemble. Et on va se poser des questions, prendre du souci l'un de l'autre. On s'est mis des SMS, comment ça va ce domaine? Et sur ce qu'on vous raconte ce matin, pour l'instant, ça suffit. Ça suffit pour libérer les personnes. Alléluia. Peut-être viendra un temps où on devra aller plus loin.
Moi, j'ai juste une question. C'est chouette de voir des hommes ensemble, parce que c'est vrai qu'on dit pour le divin, c'est souvent notre fille qui a des amitiés. Mais ensuite, c'est tellement fort ce que vous vivez, et question timing, quelle est la part que vous laissez, que vous donnez à vos femmes?
Je souris pas à cause de la question, mais des fois je pense à des bêtises. Je peux pas vous dire, parce que je suis quelqu'un qui dit beaucoup de bêtises, alors je peux pas toujours tout dire. Donc prenez pas mal si je souris, c'est super comme question.
Moi je peux répondre pour ce qui me concerne. Donc, moi je vais donner mes mandats que j'ai. J'ai décidé de laisser ces mandats-là et vraiment d'investir dans les gens, dans la jeunesse. Même, je peux même vous dire que certaines choses au niveau du discipola, je ne parle pas des duos de prière, je le vis même avec des non-chrétiens. Et ça porte des fruits. Il y a des gens qui se convertissent, il y a des gens qui sont totalement, des situations totalement retournées, simplement en pratiquant le discipola avec des non-chrétiens.
Je crois que j'ai mal posé ma question.
Ouais. Au niveau temps, c'est des choses que je fais au travail, pendant le travail, avec un jeune qui est dans mon équipe, par exemple. Donc, ça prend pas le temps de ma famille. Les soirs, moi j'essaie toujours c'est pour ça qu'on fait une agenda et c'est pour ça qu'on fait, entre nous, on fait une heure par semaine et pas plus. Pour avoir suffisamment de temps avec nos familles.
D'accord, parce que moi j'entendais ce challenge de lire par exemple 20 chapitres, de faire ci, de lire, de je te confesse tout ce qu'il y a sur mon cœur, etc. Je me dis, je trouve ça très bien, mais je trouve qu'il y a aussi un couple à rechercher ce genre de choses. Et quelle est la place, le temps qui vous reste pour vivre aussi en couple? C'était ça aussi un peu la question.
Moi je le vis en couple. Très naturellement, personnellement. Hein. Ouais. C'est à table, c'est très naturellement.
Ouais, d'accord.
Mais j'ai absolument
juste,
pas de.
Je peux juste répondre, ouais. Parce que peut-être ça t'aiguera plus. Moi, j'ai le cas aussi où je vis quelque chose comme ça. Et en fait, les transformations que je vis dans une relation comme ça sont bénéfiques pour mon couple. Ouais. Donc, ça me transforme et ça transforme aussi ma façon d'être avec mon partenaire, ma femme et mes enfants. Alors du coup, ma femme, elle m'encourage presque, elle dit « Ouais, c'est cool, va travailler, c'est génial ce que tu vis, je sais que tu vas revenir transformé. Mm-hmm. » Donc voilà, je ne sais pas si ça répond un peu plus.
Oui, oui, non, mais...
Ce que je veux dire, c'est... J'aimerais dire, moi je ne prends pas avec mon épouse, ce n'est pas des temps hautement officiels. Une fois que les enfants sont au lit, on est à table, on se prend un thé, c'est comme ça. C'est très naturel, au lieu de regarder une CSI Miami, ben, on est à table, on discute très, très naturellement. Donc ce n'est pas un temps que je dois vraiment chercher dans mon agenda, c'est très naturellement que je le veux.
Je veux dire quelques mots aussi. Avant d'en parler à Ivan, j'en ai parlé à ma femme. Je lui ai dit voilà ce que je veux vivre. Elle connaissait mon parcours avant, elle savait où j'en étais dans mes réflexions. Je lui ai dit ça va prendre une heure de plus par semaine. T'es d'accord? Elle a été d'accord. Et puis dans le contrat entre elle et moi, c'était qu'on prenait le risque que ça fasse une heure de plus par semaine d'absence, pour moi, tu vois. Mais c'était d'accord entre elle et moi qu'on allait travailler pour voir quelle autre heure on va annuler, quel autre rendez-vous, quelle autre chose je vais laisser pour que ça ne soit pas quelque chose de lourd pour elle.
Dans l'heure, je comprenais très bien. Okay. Moi, je trouve ça me semble très viable.
Ouais, je vais répondre maintenant à la suite, je crois.
C'était plus... Ouais, c'est pas grave. Ouais.
Attends, je vais essayer.
Dans la relation.
Ouais, dans la lecture, le partage, dans le fait
de... L'intimité.
De tout ça, oui, c'est un grand tout, en fait.
Depuis que je vis cette dimension un peu horizontale avec Ivan, je suis devenu un meilleur mari. Donc, comme toi, elle gagne ça, ma femme. Donc, elle a tout intérêt à me lâcher pour ça. Et elle ne perd pas l'intimité spirituelle qu'on a dans le couple. Parce que mes temps de prière avec ma femme, qu'on fait en général le matin à 7h, on les a. La lecture de la Bible, on lit. Elle va lire de son côté, moi je vais lire. Moi, je n'ai pas pu lui dire, écoute, moi je lis tant, il faut que tu lises tant. Par contre, elle sait que je le fais. Et voilà, certainement, le cœur est travaillé et tout ça. Et puis, je passe bien plus de temps avec elle qu'avec Ivan.
Heureusement.
C'était aussi défini avec elle. Enfin non, ça, je ne l'ai pas défini avec elle. Ça, c'est moi devant le Seigneur. Pour moi, c'était clair que tout ce que j'allais partager à Ivan, c'était pas pour me séparer de ma femme. Ouais. C'était pas tout à coup mal parler d'elle ou me plaindre ou lui cacher des choses. Pas du tout. Par contre, il y a des choses que j'ai dit à Ivan que j'ai pu plus développer avec lui qu'avec elle. Ouais. Parce qu'elle me connaît tellement bien, ma femme, ou elle a tellement eu l'habitude de certaines choses dans ma vie qu'elle écoute avec une autre oreille. Des fois, tu vois, plus ce genre-là.
Je pense qu'un conflit de masculin pour un homme est important. Ouais. Ça, je ne remets pas en question. C'était plutôt le temps, le...
Ouais. Mais ça répond à pas à la question.
Ouais, ça va mieux.
Mais c'est vrai que ce genre d'échange, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Moi, je le réserve à ma femme. Pas un autre homme.
Ouais. C'est aussi un lieu de prière.
Bien sûr.
Nous, on le vit dans, de cette manière-là. Moi, je le vis aussi avec mon épouse, mais sous un petit peu sous un autre donc, type et très famille, puisqu'on parle beaucoup famille, les enfants, l'école, qu'est-ce qu'il y a eu, ben pourquoi, comment, bien, on prie. C'est plutôt vraiment comme ça, quoi. Et alors qu'avec lui, c'est un peu... Ça passe de trucs très importants à des trucs totalement futiles.
Et je prends un exemple. Ni Ivan, ni l'homme qui nous a rejoint à 6 semaines, mais d'autres jeunes avec qui j'ai vécu la même chose, et qui viennent. Parfois, c'est des gens qui ont déjà une relation de mariage, un exemple. Et ils viennent avec une situation d'adultère ou une situation de pornographie. Là, leur duo de prière avec leur conjoint, ça ne sert à rien pour ce genre de problème. Au contraire, ça serait dramatique. Donc là, ça a son sens.
C'est une relation de disciple plus. Après, oui. Quoi. Plus que de égal à égal, de niveau. Quoi.
D'autres interventions.
Un commentaire et après une question. Le fait d'avoir cherché à avoir des relations un peu plus profondes avec des amis qui ne sont pas encore chrétiens, il me semble normal dans le sens. Jésus dit d'aller faire des disciples, pas faire des convertis, et ensuite faire des disciples.
Ouais.
Donc ça fait partie d'un processus que Dieu se révèle. Moi je suis en Belgique, mais ça m'intéresse de savoir de quelle manière, vous avez parlé de que d'autres responsables de jeunes vous partagez aussi un peu, et vous voyez que d'autres vivent la même chose.
Ouais.
Est-ce que ça c'est au niveau du... des églises de réveil, ou est-ce que c'est sur le plan des différentes dénominations? Est-ce que vous avez des échanges entre responsables, des formations peut-être collectives?
Moi je sais que là, par exemple, l'église Wynyard vit ça. Donc ils ont ça dans leur structure d'église. Ils font des duos de prière, par exemple. Ça je sais. C'est Martin qui me l'avait dit. Donc au niveau du réveil, je crois que c'est assez bien...
Là, j'ai vraiment quelque chose à dire pour les églises de réveil parce que je visite les groupes de jeunes assez souvent. Puis c'est là, je pense, que la proximité entre moi et les responsables est la plus forte. Donc non seulement on a pu discuter de ça, mais après on peut suivre aussi ce qui se met sur pied. Donc oui, pour les églises de réveil. Après, j'ai été invité ailleurs. J'étais avec les églises, avec beaucoup de responsables, de groupes de jeunes des églises apostoliques en début d'année. Mais là, c'était une invitation. Donc maintenant, pour moi, c'est plus difficile d'aller chercher les témoignages ou les choses. J'ai une jeune, l'Armée du Salut, qui est venue vers moi dans une grande rencontre de jeunesse, qui s'est plantée devant moi, qui m'a dit « Tu t'appelles Nicolas ?» J'ai dit « Oui, mais je ne te connais pas. » Elle m'a dit « Parce que j'ai entendu ça, elle m'a dit le lieu, la date, tout ça, et je vis ça maintenant avec une amie. » Donc ça part un peu à droite, à gauche, mais j'allais dire, personne ne le maîtrise, tu vois. Donc je pense que ça déborde, bien sûr, la Suisse romande, bien largement les églises de réveil. J'espère que cette sensibilité va aussi... Elle l'est déjà, je pense, chez beaucoup de personnes aussi en Belgique.
Moi, je pense, pour certains en tout cas.
Ça répond un peu à la question.
Oui, en tout cas, pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe en Suisse. Moi, je travaille plus au niveau des enfants, mais au niveau des jeunes. Donc, j'ai plus de contact avec des réseaux de jeunes maintenant. Et en voulant les encourager aussi, que les jeunes qui soient formés et à cœur, d'avoir les mêmes relations avec ceux qui sont juste un peu plus jeunes qu'eux. C'est des modèles.
Absolument.
Donc c'est important, et ça permet aussi d'avoir un sens de responsabilité, de mission que le Seigneur leur donne aussi.
Exactement. On est en train de développer ça avec la personne responsable de notre église de l'enfance. Comment elle peut le faire avec les enfants, qui est aussi une très grande proximité entre ce qu'on appelle habituellement un moniteur et une monitrice et les enfants. Mais là, on est devant un mur qu'on peut trouver dans le travail avec les enfants, mais aussi dans le travail avec les jeunes et aussi avec les pasteurs ou responsables d'heures. Le mur, c'est que souvent les gens sont habitués à fonctionner. Nous, on a beaucoup de moniteurs, monitrices d'école du dimanche. Le premier réflexe, c'est je mets mon nom dans une case vide. Je mets mon nom pour telle date, pour enseigner les enfants ou pour travailler avec eux. Et ça leur prend 1h30 le dimanche matin, éventuellement 1 heure de préparation dans la semaine, mais c'est tout. Aucun téléphone, aucune présence avec les enfants, aucun jeu avec les enfants, et après on s'étonne que ça ne fonctionne pas. C'est normal que ça ne fonctionne pas.
Vous savez pas si vous connaissez, vous avez des relations avec les fabricants de joie, ce système-là, il pratique les plus grands, les coachs les plus
petits. Exactement.
Un, deux, qui sont parmi les groupes d'enfants, les adolescents, font ça, ils ont la charge de, d'encourager, d'écrire, de mettre des petits mots, des suites, même un petit cadeau.
C'est super, ça.
Ils font ça.
Ça se développe vraiment, vraiment.
C'est très, très positif.
Oui. Et c'est, je pense, des organismes comme ça, ou des personnes comme ça, qui ont un peu ouvert des voies. Mais de là, ce que ça devienne une habitude de nos églises, il y a encore beaucoup de travail.
Oui, une question. Je pense à une situation concrète. J'ai un jeune avec qui j'arrive assez facilement à partager la vie. On va des fois aussi manger ensemble au McDo. On aime tous les deux bien le foot. Mais où j'ai la peine, malgré qu'il a grandi à l'église, j'ai la peine à parler avec lui vraiment des trucs spirituels. J'ai l'impression que ça ne l'intéresse pas. Malgré que je sais qu'il a fait quelque part avec le Seigneur, mais je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui l'intéresse. Alors j'ai des fois l'impression, si je viens avec des questions comme ça, que ça l'embête. Ça... Mm-hmm. Qu'est-ce que vous conseillez là?
J'ai écrit une petite note là que je voulais vous dire. J'ai écrit... C'était important de sentir si la personne veut demander quelque chose ou si elle est juste là pour nous faire plaisir. Et là, il y a un grand travail dans la sensibilité pour savoir est-ce que le jeune qui est avec nous, il est là pour faire plaisir à ses parents, pour faire plaisir à toi, ou est-ce que vraiment il est désespéré parce que ça ne va pas avec, avec ses amis, parce que ça ne va pas avec le sexe opposé, parce que ça ne va pas avec son boulot, parce que ça ne va pas à la maison. Et là, ben voilà, parfois il y a quelques questions, puis... Des fois, après une rencontre, deux rencontres, ça nous épuise, ça nous tire notre jus, ça nous pompe, puis on se dit... Pff. Et moi, souvent, à ce moment-là, j'ai arrêté un mot. Parce que la personne, des fois, elle ne voulait rien du tout, en fait. On ne peut pas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif.
Moi, de ma part, ce que j'ai déjà vécu, c'est... Quelqu'un n'avait pas du tout envie d'entrer dans des questions de Dieu et des choses comme ça. J'ai passé un bon temps... Et avant qu'on parte, ou comme ça, on faisait déjà rendez-vous pour la prochaine fois, je dis, mais viens, dehors, en plein bistrot, bière à la main, peu importe, je disais, mais viens, je prie pour toi. Mm-hmm. Merci Seigneur de l'accompagner toute la semaine, pas des grandes prières, blablabla, mais des petites choses comme ça. Va en tenir, vraiment, que le Seigneur te bénisse. Ils étaient touchés. Malgré qu'ils veulent pas, ils veulent rien savoir de Dieu, ils sont quand même touchés. Mm-hmm. Et souvent, si je le fais pas, après, ils me disent, ouais, mais tu pries pas pour moi. Mm-hmm. Parce qu'en fait,
ils ont envie.
Voilà. Donc, souvent, ils ont un désir intérieur, mais il y a peut-être une gêne, ils ne savent pas trop. Et peu à peu, moi, je t'encourage à continuer, peu à peu, le chemin va se faire.
On veut vraiment vivre notre foi avec eux.
Ouais.
On ne veut pas juste leur poser des questions pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. On a vraiment un cœur passionné pour Jésus, on les aime profondément. Et on veut les mener en tout cas jusqu'où nous on est, et puis on sait que certainement ils iront plus loin, et ça c'est notre plus grande joie.
C'est...
Aurore, tu as une question avant?
En fait, vous avez parlé spécialement au niveau de l'église, des jeunes quand même qui sont chrétiens. Et par exemple, si nous, on a ouvert un centre pour les jeunes dans le milieu de la rue, bah, par exemple, par rapport à eux, qu'est-ce que vous proposeriez?
Je peux répondre. Bien sûr.
Moi, j'aurais un petit témoignage. J'essaie de le faire très court. J'ai fait du foot toute ma vie. Et je me suis retrouvé dans un club de village, en dessus de Vienne, qui joue en deuxième ligue. Et moi, j'étais un peu l'étranger. En tant qu'Italien et en tant que Biennois, j'étais l'étranger. Et j'ai dû un petit peu batailler. Donc moi, je vis pleinement ma foi devant tout le monde. Et Dieu m'a dit, tais-toi. J'étais un peu étonné parce que pour moi c'était mon champ de mission. Alors je me suis tué. Et on a galéré ensemble, on a gagné ensemble, on a perdu ensemble, on a souffert ensemble, on a transpiré ensemble. Et après 3 ans, il y a eu le décès d'un papa d'un joueur. Donc c'était un drame pour toute l'équipe. Et là Dieu m'a dit, maintenant tu pars. Pendant 3 ans, j'ai fait rien d'autre que de vivre avec eux. Et après 3 ans, on était dans les vestiaires, j'ai amené un carton de Bible et je ne suis pas allé leur donner. J'ai mis au milieu, j'avais demandé la parole donc à l'entraîneur, il a dit pas de problème, vas-y. Et j'ai dit, vous savez tous que je suis chrétien et j'aimerais vous inviter à la fin de ce match de venir poser toutes les questions à moi. Je vous ai apporté des Bibles, ceux qui veulent, servez-vous. Non pas seulement tout le monde est allé chercher des Bibles, mais parce qu'ils ont vu mon style de vie comme j'étais avec eux, en étant comme eux, mais quand même différent, à la fin, il y a toute l'équipe qui est venue vers moi. J'ai pu témoigner avec chacun. Et à partir de là, à part qu'il y a eu 3 conversions dans une équipe entière, avant chaque match, où quand il y avait quelque chose, les gens venaient vers moi et ils demandaient la prière. Donc des païens, il faut s'imaginer, un match de foot, il y a les adversaires qui sont là. Ils m'appellent, Ivan, viens, viens. On se mettait en rang comme ça. Ivan, s'il te plaît, prie. Donc, moi, je crois que les gens, ils reçoivent entre iPad, iPhone, Internet, télé, radio, boîte de nuit et tout ça, ils reçoivent tellement d'informations qu'à un moment donné, ils ne veulent plus entendre. Ils veulent voir. Et je crois qu'en moi, ils ont vu. Et quand au moment où j'ai annoncé l'évangile, ils savaient que quand je disais un truc, c'était vrai. J'étais authentique. Ce n'était pas des paroles, c'était ma vie qu'ils voyaient. Quand je parlais, ils voyaient ma vie.
On a beaucoup parlé de l'Église, des jeunes de l'Église, mais il faut bien savoir que les jeunes dont on parle, tu pourrais penser qu'ils sont de l'Église. Pour certains, on peut bien se poser la question, quelle relation ils ont avec Jésus-Christ, parce que même ils sont convertis, tu vois. Ils sont là depuis longtemps, par habitude, parce que les parents les obligent. Et ces jeunes-là sont parmi les autres qui ont des convictions. Je me souviens d'un jeune qui était avec moi dans une autre église. Je l'avais attrapé, je l'avais trouvé sur un banc à l'église et tout ça. Et il sortait d'une bagarre. Il s'était battu dans les bars et tout ça, mais c'était tout le temps à l'église, parce que c'était un enfant de chrétien, tu vois. Et je lui ai dit, écoute, j'aurais besoin de toi, parce que tu es un très bon musicien. J'aimerais que tu t'occupes de faire qu'à chaque rencontre de jeunes, il y a un moment de louange, et ça tourne. J'ai pris un risque à travailler avec lui. Je savais qu'il était intéressé, il aimait Jésus, tu vois, mais je ne savais pas où il en était. Il a dit, ok, mais que ça, je ne deviens pas responsable de groupe de jeunes. Je dis, non, question. Je suis juste, quand j'arrive chaque vendredi, il y a un moment de louange. Ça peut être toi, sinon tu délègues à quelqu'un d'autre. Il a commencé à faire ça. 3 mois après, il était les responsables de groupe de jeunes. Et quand j'ai quitté cette église-là, c'était un de mes plus proches jeunes, un super responsable de groupe de jeunes, un gars amoureux de Jésus, avec une passion pour lui, pour les jeunes, un truc incroyable. Donc, tout ce qu'on a présenté, c'est vivable, quel que soit le degré de foi, ou de maturité, d'avance avec le Seigneur. On est un peu obligé de s'arrêter parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Donc on aimerait vraiment vous libérer. Et puis si vous trépignez pour une question ou l'autre, ben voilà, nous on a encore là quelques minutes. Je vous remercie pour votre attention. Merci.